Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Vous êtes au milieu de la nuit, elle est noire, vous ouvrez les yeux et vous n'y voyez rien, tout est flou. Avant de tâtonner pour attraper vos lunettes, écoutez. Écoutez cette émission de Catherine Grive-Santini et Ghislaine David. Surpris par la nuit, vous l'étiez déjà le 11 février 2003 avec cette quête du flou ou le bonheur d'être myope.
Surpris par la nuit.
La quête du flou ou le bonheur d'être myope par Catherine Grive-Santini et Ghislaine David. À la différence des maniaques dont l'attention est tendue à l'extrême et auxquels n'échappe aucun détail, je vis et je me déplace au milieu d'un léger brouillard qui prive les choses et les gens de contours précis. Dans ces eaux troubles, cet entre-deux, ce brouillard dans lequel tout flotte, j'éprouve une agréable sensation d'apesanteur, une certaine absence à moi-même, une pensée trouble. Ce flou forme un voile qui modifie les réalités comme dans un rêve, plonge le monde dans une poignante mélancolie, un glissement doux vers l'oubli, voir le monde à travers des larmes. Ne s'accrocher à rien, laisser flotter le regard. La poésie du flou contre la crudité du réalisme. La vie n'est tolérable que si on n'en effleure que la surface. Le flou magnifie le mystère, le secret. Il introduit l'exploration, le trouble, le doute, la vie même finalement. Alors ne pas entendre, ne pas voir distinctement. N'est-ce pas entendre et voir mieux? La vérité n'est-elle pas justement dans le flou? C'est toujours dans le brouillard que les apparitions ont lieu.
Contrairement à ce qu'on pense, le monde du myope n'est pas un monde enveloppé de brouillard. Ça n'est pas une photo de David Hamilton. Ça n'a rien à voir, ça n'est ni si laid, ni si mièvre. C'est un autre monde, avec d'autres formes, avec des arêtes là où il n'y en a pas et des formes arrondies là où il y a des arêtes tranchantes.
Christine
avec des grandes masses qui sortent de façon très étonnante, des couleurs qui se mélangent, des silhouettes humaines qui sont complètement mangées par la lumière, comme si la peau devenait transparente. Il n'y a plus de limite entre les objets. Les objets ne sont plus posés les uns à côté des autres, les uns sur les autres, les formes se mélangent, les couleurs se mélangent aussi un peu, et les formes s'interpénètrent. Donc déjà, le chandelier n'est pas à la place qu'on croyait sur la table, donc ça explique qu'on le fasse tomber. Et puis, il rentre dans le marbre de la table, donc le métal se mélange au marbre. Le marbre se soulève légèrement, là, ce que je vois en face de moi. Il est ancré dans le marbre, le métal du chandelier. Donc il y a sans arrêt des mariages entre les éléments, les formes et les couleurs. C'est un lien, en fait, le flou. Un lien entre les choses et un lien entre les êtres.
Ce qui m'est arrivé, une aventure, si on peut appeler ça une aventure, un jour où je me baignais, j'avais laissé mes lunettes bien soigneusement sur un rocher. Et puis quand je reviens de l'eau, impossible de retrouver le rocher et donc les lunettes. Égarement total. Non mais panique. Je ne savais plus où j'étais complètement perdu. Dire que j'étais dans le flou et même pas assez. Vains efforts pour retrouver la dite paire de lunettes. J'arrive, je ne sais trop comment, à l'hôtel. Et toujours égaré, je devais avoir l'air d'un fou, vraiment errant. Et par miracle, je retrouve une autre paire de lunettes qui n'était pas tout à fait les mêmes. Enfin, là, je me suis retrouvé. Donc, ça m'a assez intéressé de montrer à la fois ce désarroi, celui qui n'a plus ses lunettes, et l'exactitude que permettent au fond les verres. J'ai le sentiment, peut-être je me trompe, que le myope, pourvu que sa vision soit corrigée, a une vision plus précise, plus exacte que, je dirais, le non-myope. Un peu dire que quand on regarde un tableau, une gravure sous verre, hein, les détails ressortent beaucoup mieux que si on la regarde sans qu'elle soit sous verre. Donc il y a cette espèce de contraste. Ça peut être dangereux parce que cette vision du myope avec lunettes très, très exigeante, voire assez cruelle. Hein. Par exemple, peut voir sur un visage, je ne dirais pas lequel, notamment de femmes, le moindre défaut. La moindre petite ride, le moindre petit bouton qui risque de venir, tout ça est accentué. Donc il y a un échange là entre peut-être trop de flou et trop d'exactitude, c'est ce que j'ai appelé la double vision du myope. Qu'est-ce que c'est que le flou? C'est ce qui n'a plus de contour, ce qui n'a pas de contour précis. Ça s'oppose à précision. Et l'idée de contour, donc le contour justement de soi, hein, le contour du moi, disons, se perd en même temps que les contours du monde extérieur se perdent.
Vous êtes myope ?
Oui, je suis myope et astigmate, ce qui augmente le flou, parce que les astigmates, en plus, ne voient pas la profondeur. Donc, curieusement, alors que bon, je ne suis pas si myope, je ne peux pas me passer de mes lunettes, même une demi-heure.
Luba Jorgensen.
Parce que je ne peux plus me repérer. Je perds complètement la notion de l'espace, enfin, la notion des coordonnées spatiales. Donc, je dois toucher des choses pour... bien me repérer. Bon, peut-être si je restais longtemps sans lunettes. Non, quoique si j'ai essayé, c'est un malaise incroyable. C'est presque un monde en deux dimensions. Et donc, je sais que je me suis décidée d'avoir des lunettes le jour où j'ai pris une forêt, une forêt sur une montagne pour l'ombre du nuage qui passait au-dessus. Et donc je me suis dit, il y a quand même toute une dimension des choses qui m'échappent complètement. Donc c'est un monde où les ombres deviennent des objets, c'est quand même très inquiétant. Et inversement, les objets deviennent des ombres. La correction que j'ai est insuffisante, de toute façon, donc il reste quand même un petit peu...
Volontairement insuffisant ?
Non, il y a un moment où on ne peut plus corriger complètement, donc parce qu'il y a trop de... Quand c'est trop compliqué, on fait dans l'approximative.
C'est une chance extraordinaire de pouvoir disposer de deux regards comme ça.
Oui, c'est vrai. Tellement extraordinaire que depuis des années, mon ophtalmo me dit que je devrais bien me faire opérer de ma myopie, que maintenant c'est tout à fait au point, qu'il n'y a aucun problème, plus d'effets secondaires, plus de risques. Et je crois que si j'hésite, c'est en grande partie à cause de ça. Parce que ce monde du flou, puisqu'on a choisi de l'appeler comme ça, même si c'est peut-être pas tout à fait le terme exact, en tout cas cet autre monde me serait ôté. Je n'aurais plus la possibilité de changer d'univers. Je serais pour toujours condamnée à l'univers du net, des formes bien distinctes et des regards que je ne pourrais plus éviter. Donc ça me fait très peur. Je crois qu'on devrait quand même vraiment dresser... un catalogue des avantages du flou. Le flou rend ingénieux parce qu'on vit dans un monde plus difficile, où les repères ne sont jamais là où on pense, donc on est obligé de développer son imagination. Quand on ne peut pas lire les panneaux, on fait travailler son cerveau, on trouve des repères. Tiens, là, il y a une boîte aux lettres, une tache jaune. Je sais que je vais tourner là pour trouver telle rue si je ne peux pas lire le panneau. On trouve des repères comme ça. On mémorise plus facilement la disposition des objets dans une pièce pour pouvoir circuler autour sans les renverser. Et puis, on exerce son imagination aussi. On découvre des choses là où elles ne sont pas. C'est ça qui est merveilleux. Et je me souviens d'un voyage en voiture où j'avais enlevé mes lunettes pour reposer mes yeux. Je vois passer sur ma droite, au-delà d'un écran d'arbre, une grande forme avec une sorte de tour. Et je dis, oh, il y a un château. On pourrait s'arrêter pour le visiter. Ce serait bien, j'ai envie de faire une pause. Et un éclat de rire dans la voiture. Je remets mes lunettes, c'était des silos à grains.
Alors moi je suis un maniaque du net, c'est-à-dire que j'ai besoin de voir tout très net. C'est un confort auquel on s'habitue trop bien. Peut-être parce que le flou me fait peur justement, peut-être parce que ça me paraît tellement exquis, dangereux, tentateur que je m'en prive. Ah, c'est possible. On désigne des victimes de la myopie, on règle ses comptes avec la myopie. Bien sûr qu'il y a une stratégie, plus ou moins consciente. Bien sûr qu'il y a une sélection, les myopes sélectifs, les sourds sélectifs. Ce qui est important, c'est de pouvoir dérégler un petit peu l'ordre du visible, c'est-à-dire voir très net ce qui était présenté comme flou, voire flou, ce qui doit être absolument net. C'est de pouvoir être dans la réversibilité, dans le va-et-vient. C'est de pouvoir retrouver une forme de souveraineté par rapport à ça et ne pas être obligé de suivre le circuit d'éclairage, le circuit balisé, tel que maintenant les musées nous y astreignent, tel que s'installe cette énorme pédagogie de rien. Puisqu'il n'y a rien au fond de cet enseignement, et tel que nous y embarque cette énorme mobilisation pour rien. Il y a un célèbre penseur allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk qui a fait un livre qui s'appelle La mobilisation infinie, et c'est lui qui l'a dit très vite, et d'autres l'avaient fait déjà avant lui, comme Adorno, mais c'est lui qui a dit, mais on a une mobilisation gigantesque, non pas vers un front où on se bat, mais vers rien. C'est-à-dire qu'on a connu des mobilisations générales, des levées en masse pour aller dans un endroit et puis en ressortir vivant ou mort, enfin voilà. Maintenant c'est fini, on a une sorte d'investissement des corps, des nerfs optiques, des nerfs acoustiques, qui est une mobilisation générale, une grande gymnastique avec un entraînement permanent, et tout ça vers rien.
Et qu'est-ce qu'on craint alors ?
Mais simplement la perte de gigantesque, l'occupation du temps que ça va vous amener, vous apporter jusqu'à votre mort, et c'est tout. Moi, je pense que c'est un des sens qu'on peut retirer aussi de la pensée de Debord. Il y en a beaucoup, mais quand le goût des choses disparaît, c'est une vraie catastrophe parce que vous allez mourir et on vous enlève simplement le sentiment du temps et le goût et les saveurs de la réalité. Même si elles ne sont pas forcément agréables, mais c'est pas ça le problème. Si elles sont désagréables, elles sont vraies. Et on vous les enlève, et on vous enlève simplement le vrai de ce qu'il y a à vivre. Voilà. Et on vous occupe l'espace avec des spectacles, des messages, une mobilisation générale vers rien, qui est une prise de pouvoir absolument abusive, et qui finalement ne vous mènera qu'au même terme, c'est-à-dire à la fin de votre vie. Mais avec une dépossession radicale. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que c'est très important de récupérer son nerf optique et son nerf acoustique. C'est extrêmement important.
Quelle est la chose que vous regretteriez de ne plus voir distinctement, Christine Ferré-Fleury ?
Peut-être certains paysages. En face de chez moi, là où j'habite maintenant, il y a la montagne Sainte-Victoire. Si je ne pouvais plus porter mes lunettes, je ne la verrais plus que comme une sorte de fantôme de montagne, flottant très très loin. Juste comme une présence, ce serait déjà très beau. Mais je regretterais de ne plus pouvoir voir à certaines heures du jour les plis de la pierre, les couleurs qu'elle prend, certains roses, certains bleus, ou bien la neige justement, qui ces jours derniers s'était accrochée aux roches. Ça, je le regretterais, oui.
Un paysage plus qu'un visage.
Les visages, si je m'en approche assez près, je les vois. On peut toujours s'approcher très très près d'un visage.
Vous avez une récupération du flou dans l'art, qui est quelque chose qui est arrivé il y a une cinquantaine d'années déjà. Le flou était bien sûr un élément dont les peintres ont toujours su jouer pendant 5 siècles de peinture, mais ça a été plutôt de l'ordre du lointain. Il est rare que dans une peinture classique du 17e ou du 18e, on ait quelque chose de très flou au premier plan. Ça peut arriver, pour ce sont des paysages flous, des feuillages flous, des effets de feuillage, des effets d'atmosphère, de ciel, de nuages, etc. Le visage flou, délibérément flou, a toujours eu quelque chose de délibérément monstrueux. On en trouve chez Goya, par exemple, des chimères floues, mais dans une intention nettement cauchemardesque et monstrueuse. Et l'idée qu'un visage flou puisse, par exemple, être rassurant, au contraire, s'est installé il y a peu de temps, finalement. Ça a été plutôt un travail de photographe qu'un travail de peintre. chez des gens, ben, des gens que tout le monde connaît. Enfin, il y a des visages flous chez Boltanski, chez Duane Michaels, par exemple, on fait ces fameux visages flous d'Andy Warhol. C'est toutes ces choses-là n'ont plus du tout la connotation terrifiante. Au contraire, il y a quelque chose de familier, il y a quelque chose qu'on peut s'approprier avec le flou, même dans les perspectives les plus proches.
On devine plus qu'on ne voit. Ces personnages sont flous, comme ces visages qu'on a aimés autrefois et qu'on s'efforce de ressusciter sans beaucoup y croire. Ou ces dessins d'enfants aux couleurs franches, oubliés sous la pluie. Ces toiles nous renvoient notre propre myopie, notre propre vision déformée des affaires de ce monde qui ne brille pas par sa clarté. Nos regards perdus dans les toiles enduites de résine, ils donnent à voir l'œuvre myope. Le vague souvenir, et nous assigne à une tendre rencontre avec nos nostalgies intimes. Le flou est chez lui un parti pris esthétique, et aussi sans doute une sorte de pudeur du regard. Olivier Passieux, l'esthétique de l'embuée. Olivier Passieux, on est dans la galerie Alain Blondel, devant une de vos toiles.
Alors, il s'agit d'une toile, le titre est Golf Azur. C'est donc une huile sur toile, marouflée sur panneau, avec une induction de résine en surface qui est polie et qui donne un rendu comme un miroir liquide. Cette toile est issue d'un petit polaroid qui a été pris par un amateur pendant ses vacances, que j'ai réinterprété dans un, on va dire, un réalisme un peu flou, avec cette parenté justement photographique. On voit donc un couple à la terrasse d'un café, on va dire. Voilà, et donc un baigné de soleil. Ma matière de travail, la matière première, est des photos prises par des amateurs. Absolument aucune indication sur leur provenance. C'est des petites photos que je chine de droite, de gauche. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est justement d'essayer de percevoir dans ces témoignages ces petits instants sans grande importance et pourtant qui font toute l'importance de la vie, et essayer de justement dégager à travers mon travail cette part intéressante de l'existence. Le flou que je rends dans ma peinture est une façon de me représenter comme une esquisse, c'est-à-dire que je veux éliminer justement la trame narrative de la photo, que je ne représente pas. Je ne veux pas qu'on puisse voir dans ma peinture le prénom, le nom de la personne qui est représentée. C'est uniquement l'atmosphère et la scène qui est importante pour moi. Donc je veux enlever ce côté très narratif des photos souvenirs pour garder uniquement l'essence de cet instant. La couche de résine, son importance est uniquement d'enchasser, d'emprisonner finalement ce souvenir-là. Un peu comme les jeux qu'on avait dans notre enfance où on pouvait couler des petits objets dans des pains de résine pour en faire des presse-papiers. Et donc on le conservait comme ça à vie parce qu'il était protégé. Et là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que la peinture véritable, mon expérience de... Mon activité de peintre, on va dire, est définitivement enchâssée sous cette couche de résine et il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière.
Donc on voit, Olivier Passieux, des formes étranges et pourtant assez familières. Est-ce que c'est le flou qui permet justement de s'approprier les personnages que vous avez, non pas photographiés, mais repeints ?
Ce qui m'intéresse, c'est justement de trouver ce côté familier dans la scène et essayer de retranscrire ça. Bergson disait que quand on veut traduire sous forme d'image un passé, il faut s'intéresser à l'inutile, il faut pouvoir rêver. Et en même temps, on a une différence entre cette mémoire un peu nostalgique qui est en permanence perturbée par une mémoire qui nous oblige à vivre. Et là, c'est un petit peu ce que je souhaite faire, c'est trouver le sens de l'inutile pour qu'on puisse aller vivre ensuite avec une mémoire plus actuelle, on va dire. Donc là, c'est vraiment une mémoire nostalgique qui nous envoie dans un sentiment qui est tout autre que le sentiment actuel qui nous fait vivre tous les jours.
Le flou, ça permet aussi de dissimuler des défauts, des imperfections. Là, les visages sont parfaits.
C'est en fait plus proche de l'ébauche. Non pas vouloir tendre vers une forme d'universalité, mais en tout cas, transformer ces personnages en éléments plus ou moins fantomatiques, mais qui en même temps peuvent prendre l'identité de tout un chacun. Donc, je ne cherche pas à rendre le modèle plus parfait, mais plus neutre, simplement.
Olivier Passieux, les fantômes, ils disparaissent toujours à un moment donné. Mmh. Et là, par rapport à vos toiles, on a l'impression que ces personnages vont disparaître. Ils portent déjà en eux la disparition. Un peu comme ces kits de dessin où on a sur un papier, on peint avec une encre noire et puis le dessin va disparaître au bout d'un moment. On se demande si d'ailleurs il ne disparaît pas pour qu'on s'arrête un peu et qu'on médite sur ce qui vient d'être peint. Là, c'est un peu pareil.
Et moi, ce que je voudrais, et justement d'où l'importance de ce reflet, c'est que le spectateur se plonge et c'est lui qui véritablement va condenser cette image au niveau de la narration, va se l'approprier et va faire en sorte que ces fantômes éthérés reprennent vie sous son regard.
Je vois l'entrée d'une grotte, largement ouverte sur le ciel, avec des nuages sans doute qui passent au loin. Dans l'entrée de cette grotte, brillamment éclairée, il y a, je crois, une femme. Je pense que c'est une femme parce que sa peau retient la lumière. Elle est au centre d'un groupe que je ne distingue pas. Elle est peut-être assise sur quelque chose. C'est peut-être un tonneau. Peut-être un animal. Je pense qu'il y a un dieu barbu à ses pieds qui peut-être lasse des cothurnes autour de ses chevilles à moins qu'il ne soit occupé à recueillir le jus qui coulerait d'une corde d'abondance que peut-être elle tient de sa main droite. Et puis en haut à gauche, il y a une petite tache orangée qui m'intrigue. Je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être. Autour d'elle, il y a des lambeaux de tissu couleur de feu. Mais cette tache orangée, qu'elle désigne, ce serait peut-être un dernier reflet du soleil ou un papillon géant, peut-être un fantôme, peut-être un livre déchiré qui serait porté par le vent. Voilà.
C'est déjà beaucoup de choses que vous avez pu arriver à percevoir. Ah, vous mettez vos lunettes.
Alors, je mets mes lunettes et je m'aperçois que oui, il y a bien une femme. Elle n'est pas du tout assise sur un tonneau, c'est elle le tonneau. Parce qu'elle a des rondeurs assez avantageuses. Je ne m'étais peut-être pas tout à fait trompée pour l'entrée de la grotte. Et en fait, ce n'est pas du tout un dieu barbu qui est à ses pieds et qui lasse ses cothurnes dans une scène que j'avais quand même imaginée plus romantique. On dirait vraiment que oui, effectivement, c'est une scène de beuverie. Et il y a un homme qui semble soit blessé, soit à peu près ivre-mort à ses pieds. Quant à la tache orangée, c'est le torse d'un jeune homme qui émerge tout juste de l'ombre et qui d'ailleurs est très beau. C'est pas du tout le même tableau. C'est très différent. L'ambiance en particulier est très différente. Là, c'est une scène plutôt magique. Là où j'avais imaginé une pastorale très romantique.
C'est que je n'ai rien vu. Cette vision tremblée des myopes qui tient le monde à distance, le confine dans un étroit périmètre de netteté, aux contours de plus en plus incertains, poudreux au-delà desquels les formes perdent la rigueur des lignes, se glissent dans une gaine flottante, s'entourent d'une sorte de nuage électronique. Ce qui constitue une réalité physique, au vrai, scientifique, si bien que le myope se trouve alors avec une vision microscopique des choses, percevant jusqu'au filament du liquide lacrymal qui se déplace sur la rétine. Jean Rouault, Le monde à peu près. Prénom.
Eh bien, c'est le diminutif d'un prénom russe, Lyubov, qui veut dire amour, d'ailleurs, en russe. Et voilà, c'est un prénom que j'ai gardé.
Alors, la langue, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi une façon de voir, de comprendre le monde. Comment vous sentez-vous quand vous parlez russe et quand vous parlez français ?
Bon, maintenant, le français aujourd'hui est devenu ma langue. Donc, quand je le parle, je ne me pose pas de questions. C'est plutôt quand j'écris que surgit la question de l'entre-deux, des deux langues, parce que le russe reste toujours un fond qui est vivant, qui est toujours là, qui ne s'efface pas. Et même, je dirais, au contraire, avec les années, et comme je le pratique également, et que je lis beaucoup en russe et je vais aussi souvent, maintenant je vais chaque année en Russie, donc la langue, cette langue russe que je possède se renouvelle, ce n'est pas une langue morte en moi. Et donc lorsque j'écris de plus en plus, ce fond qui n'est pas perceptible pour le lecteur français, il est présent. Je le ressens comme quelque chose avec quoi je peux jouer sans cesse. Donc il y a une sorte de... Je fais beaucoup de jeux de mots. Enfin, c'est comme si le français était la surface d'un lac où, au fond, il y a du russe. Et alors parfois, ça émerge à la surface. Et parfois, au contraire, ça descend vers le fond. Donc il y a une sorte de... Comme ça, d'espace intermédiaire entre les deux langues. Ça m'a donné une immense liberté d'écrire en français. Je me dis souvent, si je n'avais pas écrit en français, si j'avais toujours écrit en russe, c'est-à-dire si j'étais restée une personne vraiment entière au lieu de me dédoubler, comme je l'ai fait, qu'est-ce que ça aurait donné sur le plan de l'écriture ? Probablement, sans doute quelque chose de très proche de ce que je fais maintenant, mais tout de même différent. Oui, cette liberté vient du fait que quand j'ai commencé à écrire en français, bon, j'ai commencé vers l'âge de 18 ans, eh bien, je savais que tous les gens que j'avais connus quand j'étais enfant ne pourraient pas lire mes livres. Ma mère ne lit pas mes livres, elle n'en a lu aucun, donc ça donne quand même une sorte de... je ne dis pas que je crains le regard des gens, mais ce n'est pas ça. C'est que tout d'un coup, c'était comme si je m'étais trouvée sur une autre planète et je peux faire ce que je veux avec le vécu que j'ai dans cette autre langue qui m'appartient quand j'écris.
Et puis, plus on avance et plus on a l'impression que finalement, les choses sont liées aux mots. Je veux dire, plus les mots qui adhèrent aux choses deviennent importants, visibles, réclament qu'on leur fasse attention. Et alors, la situation qui est la mienne, la situation du bilingue, fait que en même temps, on le perçoit davantage comme un jeu, parce que quand on est installé vraiment dans une langue qu'on n'en est jamais sorti, on a vraiment l'impression que les mots sont vissés aux choses. Je ne sais pas comment le dire autrement. On les a jamais vus décoller des choses et puis d'autres mots arriver et se coller sur les mêmes objets. C'est comme une drôle d'expérience de savoir que les objets avec lesquels on a toujours vécu ont deux noms. Et on vit avec ça en permanence. Ça devient moins sérieux. On peut jouer avec ça, on peut s'amuser.
Quand les mots manquent, qu'est-ce que ça veut dire quand les mots manquent? C'est quand on est là, pas simplement par défaut de mémoire, parce qu'on ne retrouve pas un mot qui vous est familier, mais tout ce qui nous fait dire j'ai le mot sur le bout de la langue, je ne le trouve pas. On est dans le flou, on cherche le mot, on cherche les mots limbiques, hein, avant de trouver. Quelquefois, on trouve à ce moment-là des mots pour un écrivain. Un écrivain qui, sauf s'il écrit à toute allure, qui est inspiré tout au long, ce qui est quand même rare, il tâtonne. Hein, il tâtonne et puis à un moment ou pas vient le mot ou la phrase, il dit ça, c'est vrai, c'est vraiment ça. Jusque-là, je tournais autour, j'étais dans un flou, mais le flou n'apparaît qu'au moment, rétrospectivement si vous voulez, qu'au moment où il a trouvé les mots qui lui conviennent, qui lui paraissent adéquats.
She comes. La question de l'oubli, moi je dirais qu'elle est, elle est toujours là d'une certaine manière, non pas parce qu'on oublie une langue, mais parce qu'on est toujours menacé d'oubli, en ce sens qu'il y a des strates dans la langue qui dorment, qui sont cachées. Et quand j'ai commencé à écrire en français, par exemple, il y avait des tas de mots que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup écrit avec ces mots-là, c'est-à-dire on perçoit mieux l'enveloppe sonore du mot quand on ne connaît pas le sens. Et donc je m'amusais à explorer le français à partir de ces mots que je ne connaissais pas.
Donc dans ce halo flou qu'il y a autour des mots, oui. vous en avez plutôt joué alors.
J'en ai beaucoup profité.
Voilà, vous avez traduit alors... un peu par intuition plus que par... effort quasi scolaire d'avoir un mot pour un autre.
Ah oui, tout à fait. Je remplaçais les mots par d'autres mots, puis j'allais chercher des mots qui me plaisaient. Je partais de ces mots sans savoir ce qu'ils voulaient dire pour construire une histoire autour. Puis c'est à la fin seulement que j'allais, un petit peu comme dans les jeux sur Alice, enfin, c'est à la fin que j'allais chercher ce qu'ils voulaient dire. Donc le sens... venez s'ajouter après, mais ça marchait toujours. Les mots ne m'ont jamais trahi, en fait.
Quand on commence à écrire une histoire, on est aussi dans le flou.
Mais en fait, on commence souvent. Moi, je commence souvent à écrire une histoire à partir d'une impulsion très brève et très intense. Ça peut être une phrase que j'entends, ça peut être une chanson, enfin un mot d'une chanson, ça peut être vraiment une impression. Une lumière, ça peut être quelque chose de... C'est jamais... Enfin, une histoire ne naît jamais entièrement, enfin, entière, prête. Donc, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un peu comme le Big Bang, quoi. C'est une explosion. Il y a d'abord du sens, et puis ça se déroule. Et donc, j'ai souvent l'impression, en parlant du flou, justement, que c'est quelque chose que je n'arrive pas à voir quand il y a une histoire. Il y a quelque chose qui apparaît, qui est diffus, qui est flou, et qu'il faut fixer, essayer de dégager. Il faut essayer de... c'est un petit peu comme quand on fixe un objet dans l'obscurité, il se dérobe toujours. Et lorsqu'on détourne les yeux, on le voit. Alors pour moi, là, c'est vraiment la définition de l'écriture. C'est-à-dire, pour voir les choses, pour les saisir, il faut regarder un petit peu à côté.
Ne pas comprendre est étrange, comprendre est étrange aussi. Mais ça, c'est une expérience qu'ont fait des philosophes du sens, des gens comme Wittgenstein, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais enfin, il y a cette énigme et cet étonnement qui vient enfin se porter sur le sens lui-même. C'est comprendre, être traversé par un sens, au fond, c'est absolument stupéfiant. Et c'est vrai que quand on peut régler un petit peu sa perspective, régler son écoute, ce sont des expériences qui viennent assez rapidement. Et je pense qu'on est privé de quelque chose si on ne peut pas la faire. Si on est dans la normalité du sens et dans le non-sens, nonsense, perpétuellement pris comme un ratage, un échec, une erreur, on est dans une réalité complètement appauvrie. Il faut aussi vivre le sens comme une étrangeté et une bizarrerie, et le non-sens comme un état normal. Et il faut se promener dans ces deux dispositions et savoir qu'elles sont tout à fait réversibles. Évidemment, on tourne un peu sur soi-même, mais je crois qu'on est aussi là pour ça, pour tourner sur soi-même, et pas simplement pour filer comme un bolide dans une direction prédéterminée.
Quelle est au juste la nature de la lumière qui éclaire un rêve dans le sommeil alors qu'on dort les yeux fermés? Et quelle est la lumière que nous pouvons reconstituer au réveil d'un rêve? Il y a donc une lumière que nous avons vue et que nous ne pouvons pas revoir. Elle nous a pourtant laissé une sorte de souvenir. On ne pense jamais assez au pouvoir de transformation de la mémoire. Des peintres ont écrit qu'ils peignaient ce qu'ils voyaient avec leur œil intérieur. Parfois, ils disent l'œil de l'esprit. Quel est-il cet œil? Et que voit-il? Où se tient-il? C'est un œil, en tout cas, qui change notre rapport au réel. La folie, par d'autres voies, n'en fait-elle pas autant? Quel est alors le règne de la lumière dans cet endroit si particulier où cet œil s'ouvre? Autant de questions qu'il convient de laisser sans réponse, mais qui par extension sèment le doute sur la nature du réel. Claude Régis, L'état d'incertitude.
Alors, être myope, c'est ne pas se fier à ce qu'on voit, apparemment. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est quasiment une philosophie d'être myope. Le doute pour toujours. Systématiquement.
Non, la double réalité pour toujours. Avec et sans lunettes. Un double monde, comme un double fond dans un secrétaire. Quelque chose en plus qui est donné et non pas quelque chose en moins. Quelque chose de magique qui fait que quand on enlève ses lunettes, tout est possible, puisque tout peut se métamorphoser immédiatement. On peut inventer un singe griffu accroupi là où il y a une très banale pendule. Donc c'est quelque chose de l'ordre du rêve, et c'est aussi quelque chose de l'ordre de la fiction. Le monde sans lunettes, c'est une fiction permanente, qui se déroule très loin des yeux.
Midway, this way of life we're bound upon, I woke to find myself in a dark wood, where the right road was wholly lost and gone. I knew how. how hard to speak of it. That rude and rough and stubborn forest, the mere breath of memory stirs the old fear in the blood. But when at last I stood beneath a steep hillside, which closed that valley's wandering maze, whose dread had pierced me to the heart root deep, then I looked up and saw the morning rays mantle its shoulder from that planet bright, which guides men's feet aright on all their ways.
La distraction, c'est une grâce ou une catastrophe, Philippe Garnier ?
Tout dépend par quelle voie vous l'approchez. Si vous l'approchez par le sens pratique, par le code de la route, par l'utilisation des machines, c'est évidemment une catastrophe qui vous coûte cher, une série de micro-catastrophes quotidiennes. Si vous l'approchez par une voie morale plutôt qu'éthique, alors ça va faire un rapport à autrui très intermittent. Ça peut être aussi une catastrophe d'une autre manière. Et évidemment, par-dessus tout ça, il y a une grâce permanente qui est de nous retirer de ces messages dont nous sommes absolument saturés et de nous permettre d'élargir à l'infini une présence au monde, finalement, qui est le meilleur peut-être de ce que nous pouvons vivre et goûter et qui demande à ne pas être enfermé dans des minuscules messages, des minuscules avertissements, de minuscules signaux comme ceux qui nous entourent aujourd'hui. On a énormément pensé et travaillé sur les grands absents, aussi bien en psychiatrie, en psychanalyse. Ce sont des gens qui ont vraiment une logique complètement parallèle dans un genre un peu plus littéraire ou du divertissement. On a la figure du savant, par exemple, du savant fou ou l'amoureux complètement à côté du monde. On a ces figures-là assez traditionnelles de pensées parallèles, de gens qui finalement, pour une période de temps limitée ou illimitée, ne rencontrent plus jamais le monde. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui me paraît beaucoup plus difficile à capter, à saisir, ce sont les absences réversibles, c'est-à-dire le contact intermittent, ce qui nous permet d'aller et venir, et ce qui fait de nous des spectateurs souverains, finalement. Non pas du tout privés du spectacle, et non pas prisonniers, ni l'un ni l'autre. Des gens qui ont l'entre-deux comme forme de vie. Mais même Sherlock Holmes est un praticien du flou. Pendant au moins les 50 premières pages des romans de Conan Doyle, c'est quelqu'un qui navigue dans le flou et on ne sait pas ce qu'il emmagasine. En fait, il ne voit pas. Il ne voit rien de particulier. Il s'imprègne, ça vient l'habiter, ça se construit. Et voilà un résumé de ce qui devrait nous arriver. Il y a une ouverture maximale du regard et de l'écoute qui ne se laisse pas assigner à un message particulier et qui est le rapport au monde le plus riche qu'on puisse avoir, à mon sens, et le plus contesté aussi, maintenant, peut-être.
Vous êtes distraite, Dominique Ménard ?
Terriblement. Terriblement. Ça, c'est un point vraiment qui rend parfois la vie difficile. C'est-à-dire que j'ai une réputation, c'est d'être toujours à l'heure, mais jamais au bon endroit. Et c'est terrible, parce que ça pourrait être une plaisanterie. Mais en fait, non, c'est vrai, je suis très très souvent à l'heure, mais au prix d'efforts, mais surhumains. Mais en fait, jamais au bon endroit. Je me trompe toujours, je suis jamais... Je confonds les stations, on m'attend en haut d'un escalier, je suis en bas, ou vice-versa, Et voilà, j'ai du mal en fait à faire coïncider la réalité véritable avec l'idée que je m'en fais. Mais sinon, je ne pourrais pas vivre sans flou. Et par exemple, le fait d'avoir eu une cadence de travail vraiment depuis 5 ans, j'ai quasiment pas travaillé jusqu'à l'âge de 27 ans en fait. Et, Et depuis, je travaille vraiment énormément parce que la traduction, c'est un petit peu ingrat, parce que c'est énormément de travail pour un salaire qui n'est pas, enfin, un revenu qui n'est pas énorme. Et l'écriture, par ailleurs, bon, ne paye pas beaucoup en général non plus. Et toujours est-il que donc, je suis ces moments de mes flous absolus, c'est-à-dire où on regarde le plafond pendant des heures, me manquent terriblement. Et j'ai le sentiment d'être, lorsqu'il s'écoule quelques semaines, plusieurs semaines comme ça, sans moment à moi, j'en souffre affreusement. Enfin, j'ai vraiment le sentiment d'être totalement desséchée, en fait. C'est difficile. On m'a reproché d'être en l'air, d'être un certain nombre de choses. Et alors, j'ai rencontré mon compagnon, il m'a dit, mais je me demande comment tu arrives à survivre dans ce monde, ce qui était quand même un peu extrême, mais... c'est vrai qu'il m'a vue à l'œuvre plusieurs fois. Enfin, vraiment, il y a dans des situations où, par exemple, je m'aperçois le matin que je suis censée être 2 heures plus tard à tel endroit et j'ai complètement oublié. Enfin, des choses importantes en plus. Donc, mais bon, manifestement, j'y arrive quand même. Mais voilà, parfois au prix de stress. Et heureusement, c'est vrai, je me dis que ma profession quand même autorise. Bon, je ne pourrais jamais agir de cette façon-là, si j'étais dans une entreprise traditionnelle, je pense que vraiment ça serait impardonnable. Mais c'est vrai qu'on a une indulgence particulière pour, ne serait-ce que pour les écrivains, par exemple, ce qui est vraiment bienvenu. Et vous êtes dans une espèce de what, en quelque sorte, et qui... Oui, qui autorise le rêve, en fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment le rêve peut vraiment survivre en dehors de ce flou-là. Je ne sais pas comment font les gens qui sont en permanence en prise avec la réalité. Moi, ça me semble absolument terrifiant.
Il y a une expression qui est très courante depuis 10 ans, c'est ne pas imprimer. Ça vient des imprimantes d'ordinateurs micro-informatiques. Enfin, c'est les petites imprimantes qu'on a chez soi. J'imprime pas, on n'imprime pas. Bon, c'est passé maintenant dans le langage courant et ça veut dire finalement que le passage de l'information est resté flou, pas adhésif. C'est un handicap épouvantable. Il faut sans arrêt cacher, masquer. On ne peut pas demander à quelqu'un 3 fois son nom. On ne peut pas demander aux gens de répéter un horaire, un message, etc. Donc c'est une acrobatie permanente. Donc tout le monde, à laquelle tout le monde se livre, parce que tout le monde en souffre plus ou moins. Il y a un interdit très fort sur la non-adhérence immédiate au message. C'est quelque chose qu'on avoue avec difficulté. Il faut absolument le masquer. Donc il y a des ruses. Par exemple, relancer l'interlocuteur sur un autre sujet et récupérer à cette occasion les informations qu'on a déjà oubliées et qui étaient dans la première partie du discours. Ça, c'est une vieille astuce. Mais on est toujours en retard de quelque chose.
Votre premier souvenir, non pas flou, mais du flou, Philippe Garnier, vous vous en souvenez ?
La première reproduction floue. Ça, ce sont des choses dont on se souvient parce que c'est frappant pour un enfant, par exemple, de faire une photo floue. L'histoire d'un petit instamatique Kodak qui m'aurait fait une photo de famille floue. Et je crois qu'il y a une interrogation, une surprise un petit peu anxieuse quand on découvre les premières reproductions floues dans un livre ou quand on s'aperçoit que ce qui sort de l'appareil est flou. Parce que ça, justement, ça ne devrait pas l'être. Comme si le tout premier apprentissage était quand même celui de l'image nette.
De la réalité,
l'image nette. Et il était bien entendu que si on pouvait avoir le souvenir des perceptions des tout premiers mois de l'existence, nous n'aurions que du flou à l'esprit.
Pourquoi je me suis réveillée aujourd'hui avec une espèce de nostalgie vraiment douloureuse de non pas de l'enfance mais de ce rétrécissement en fait. Voilà ce qui est merveilleux lorsqu'on est enfant, il me semble, c'est que on est dans voilà, rien n'est défini en fait. Tout est possible, rien n'est défini. Et moi, pour moi, il me semblait évident que mon âge, c'était enfance en fait. C'est une espèce d'entonnoir pour moi en fait, lorsqu'on avance, lorsqu'on s'approche de l'âge adulte. Et justement, vous perdez ce flou-là pour une clarté qui n'est pas forcément extrêmement réjouissante, enfin, je trouve. Mais il y a des à côté qui sont parfaitement positifs, la liberté notamment. Mais finalement, je pense qu'on est extrêmement libre aussi lorsqu'on est enfant. Enfin, on est libre dans ses pensées.
Oui, j'imagine, Dominique Ménard, qu'enfant, on disait de vous que vous n'étiez pas vraiment là. Où es-tu, Dominique ?
On me disait surtout que j'étais assez insupportable. Parce que, je pense que j'étais totalement à côté, en fait, de ce qu'on attendait de moi. J'étais assez mal, en fait, dans ma famille, au sein de ma famille. J'étais comme une espèce d'ovni, oui, je n'avais absolument rien à faire là. Et puis, mes parents ont toujours essayé de me canaliser, de me cadrer, alors que c'était, à mon avis, absolument impossible et en plus inutile, parce que finalement, ils n'ont pas réussi à le faire et je n'en suis pas plus malheureuse aujourd'hui. Donc, voilà. Mais non, c'était... Justement, j'étais à la fois absente et à la fois en rébellion permanente. Donc, c'était... C'est ça qui est étrange, c'est que l'enfance, pour moi, c'est à la fois un souvenir merveilleux de moi toute seule, en fait, et un souvenir douloureux de moi avec les autres. C'est un petit peu ça.
Ça me pose des problèmes quand je rêve. Il y a des formes qui apparaissent dans le noir et je n'y distingue pas toujours bien. Ainsi, l'autre jour, en rêve, je la voyais. Et puis non, tout bien considéré, c'était plutôt elle. Mais non, impossible que ce soit elle. Si je pouvais m'approcher pour voir, m'approcher un tout petit peu. Trop tard, elle est partie. Reste que c'est peut-être... elle... Où quelqu'un a dit, mais enfin, puisqu'elles sont une seule et même personne, cela m'a permis de me réveiller. Laetitia Bianchi, voyez-vous. On ne choisit pas toujours de faire le point sur soi-même. Parfois c'est un accident, le séjour à l'hôpital, le corps d'un côté et l'esprit de l'autre qui vous y oblige. Franck Maubert a de nombreuses semaines nagé à l'intérieur de lui-même, flotté dans une vie quasi clinique où l'essentiel se jouait sur des petits riens. Il a franchi une limite, le seuil de l'entre-deux-morts qui n'est pas simplement ce que croient ceux qui en sont loin, le lieu du malheur. Au contraire, il peut être lieu du repos, du vide, entre le flotter d'avant la naissance et la pesanteur d'après la mort. Un lieu où s'épanouit la mémoire, le lieu inépuisable des apparitions, là où s'ébattent les fantômes. Comment mourir sans être mort ?
Bon, c'était une expérience nouvelle pour moi, parce que je n'avais jamais fréquenté un hôpital. Et quand à 46 ans, vous entrez directement en soins intensifs, c'est assez violent et... Forcément, ça s'appelle une dissection de la carotide. Alors bon, ça correspond d'une certaine manière, c'est une certaine forme d'anévrisme. J'étais menacé soit au mieux de paralysie et d'un côté, voire de mort sous 48 heures si ça n'avait pas été pris à temps. Heureusement, ça a été pris à temps. Et donc quand je suis arrivé dans cette chambre, je ne savais pas exactement ce qui se produisait. Je ne voyais pas l'ampleur des dégâts possibles ni la catastrophe. Enfin, je prenais ça pour un contrôle de routine. Bon, le médecin généraliste qui m'y avait envoyé n'avait pas été très alarmant. Enfin, simplement, quand j'ai vu soins intensifs, etc., bon, je me suis dit, ça doit être quand même sérieux. Et surtout, j'ai vu mes voisins qui étaient mes voisins de chambre. On était quatre. Ils étaient dans des états de coma très, très, très avancés, quoi. Donc, c'est très, très impressionnant. Enfin, quand c'est une certaine approche de la mort. Et là, vous entrez effectivement peut-être dans une certaine zone de flou, qui est le flou déjà du rapport avec vous-même, puisque là, vous êtes dans le flou de ce que vous êtes, de ce que vous allez devenir, et le flou du non-dialogue possible avec vos voisins qui sont dans le coma, et de votre corps et de ses aléas. On est vraiment dans une zone d'improbable, quoi, de... Tout est possible, même la mort, quoi.
Donc le corps empêché, inutile,
oui,
immobile, bien sûr.
Immobile, bien sûr. Enfin, vous êtes cloué dans un lit avec je ne sais pas combien de sondes et autres appareils. Puis vous voyez surtout sur les appareils électroniques divers, Doppler et autres, vous voyez les mouvements de votre cœur, les battements de votre cœur, etc. Vous pouvez lire quelque chose qui vous est impossible, parce que moi, ce n'est pas mon métier, donc je lisais quelque chose qui devait être faux. Enfin, je comprenais quelque chose qui devait être faux à travers des sons. On est dans une ultra-précision clinique, c'est le cas de le dire, mais en même temps, on est dans une zone de flou, parce que vous êtes dans l'incapacité de lire avec précision ces instruments, justement, de précision. Dans ces moments-là, vous avez effectivement des images qui viennent à vous dans un désordre totalement... une sorte de chaos d'images, et... Le souvenir est flou, en fait. Enfin, le souvenir notamment d'enfance, parce que vous pouvez les lire à travers ou les décrypter à travers des bribes de savoir qu'on vous a rappelé, vos parents ou des proches qui vous ont dit à 4 ans, tu marchais sur les mains ou tu disais telle phrase. On est pris dans cet étau de phrases qui ne vous appartiennent pas vraiment, qu'on vous a dites ou que vous avez cru vivre, qu'on a peut-être vécu, mais on est dans le flou.
On dit souvent le rêve, c'est flou. C'est vague, et je trouve pas que ce soit vrai. Le rêve rêvé, dans la mesure où on y a accès, est très précis. Les images sont très fortes, et il y a même une intensité de sensations, une acuité de perception plus forte, plus vive que dans la vie réelle. Alors, où vient le flou ? Il vient dans le récit. Là, c'est très frappant quand quelqu'un vous raconte un rêve, qui est déjà une déformation par rapport au rêve rêvé, c'est flou, c'était une espèce de... je crois que c'était à peu près ça, mais c'était pas vraiment ça. Et pourquoi c'est flou ? Parce que les images du rêve condensent une série d'images ou une série de personnes. On ne rêve jamais de Pierre ou de Paul ou de Jacqueline ou de Caroline, mais Caroline est aussi Jacqueline, qui peut être aussi votre mère, votre sœur, que sais-je. Si on voit un lieu, c'est jamais, par exemple, le bureau de l'analyste, mais c'est en même temps une pièce d'une maison d'enfance ou une plage, celle où j'ai perdu mes lunettes. Vous voyez, donc le flou vient dans le récit et non pas dans le rêve. Donc, à mon sens... C'est tout à fait inexact de dire que les rêves sont vagues. C'est le récit qui introduit le vague. Parce que les rêves, justement, sont peut-être trop précis, trop intenses, trop forts, trop saisissants pour qu'on puisse les transcrire tels quels.
Thank you.
Des rêves ?
Des rêves.
Vous rêvez dans quelle langue ?
Vous savez que c'est très étrange. Je me suis aperçue qu'on ne pouvait jamais le savoir, sauf si on se réveille au milieu d'une phrase. Parce que les rêves fonctionnent un petit peu comme... c'est un peu comme au cinéma, il y a une sorte de sous-titrage simultané et on ne peut jamais... je me suis aperçue d'ailleurs que pour le cinéma, c'était la même chose. Il est difficile de se rappeler dans quelle version on a vu le film. Parce que souvent, entre-temps, on a traduit soi-même les passages dans la langue étrangère. Et dans les rêves, c'est exactement pareil. Et je me suis aperçue que je rêvais en russe au moment, enfin, quand il m'est arrivé de me réveiller au milieu d'une phrase et d'entendre cette phrase dans ma tête. Et donc, je suppose que je rêve dans les deux langues, ou qu'il y a une sorte de traduction. Et parfois, je rêve que j'entends une langue inconnue, et ça c'est très beau toujours. C'est-à-dire, soit c'est en général c'est l'allemand, une langue germanique, et alors soit j'entends un chant dans cette langue, soit j'entends des gens parler, et c'est toujours, alors cette langue inconnue, ça devient vraiment la langue dans laquelle tout est dit, dans laquelle on entend... on entend la formule du monde, en fait, des choses, on comprend tout d'un coup. Il y a, en fait, une langue peut être visualisée dans le rêve. On peut la voir comme un... Et j'aimerais bien faire ça dans mes livres.
Dans quelles circonstances vous avez pu vous sentir flou vous-même, Christine Ferré-Fleury ?
Chaque fois que je me suis trouvée à la limite entre deux mondes et qu'il y avait deux possibilités de choix. C'est un état que j'aime bien parce qu'il est riche de potentialité, de possible, et qu'il y a toujours un moment de vacillement où on ne sait pas qui on va être, quelle histoire on va se raconter, ce qu'on va choisir de vivre. Ce moment de vacillement, c'est souvent un moment de déchirement, mais c'est aussi un état proche du bonheur. Parce qu'à ce moment-là, tout est possible. Le départ, le retour.
La fatigue peut occasionner ça. Quand
oui.
On est très fatigué.
Oui, quand on est très fatigué, on s'enfonce dans le monde comme on s'enfoncerait dans un brouillard. Mais en revanche, quand je suis très fatiguée, je me sens pas floue, je me sens au contraire très dense, très dense, très lourde. C'est le monde qui recule un tout petit peu.
Ce voile sur le regard, qui met tout au bord du tombeau, fut une constante, autant que dura mon intoxication. C'est la coloration que je retiens du film de ces saisons. Longue flânerie dans de déserts cimetières de campagne, rue vide des petites villes dans le cœur de l'été, la cloche sonnant les heures dans l'église délaissée,
un bébé transpirant dans son landau, un visage de fillette aux traits minés par une fièvre, le regard fixe d'un idiot de village, une fineté sur des yeux presque aveugles, presque blancs. Et c'est encore la petite place abandonnée, avec son modeste monument aux morts, ses deux bancs et son terrain poussiéreux pour le jeu de boules. Tout ceci est défait, démis, déchu. Anonyme, les rêveries du toxicomane solitaire.
On est vraiment au carrefour des valeurs et des significations. Un prédateur, par exemple, entend toujours très bien et voit toujours très net. Une cible n'est jamais floue. Quand vous voulez mettre la main sur quelqu'un, vous ne pouvez pas. Le flou est un luxe. Le flou est un luxe de quelqu'un qui est un peu en dehors, qui est un peu désengagé. Non, il y a une manière d'appréhender... la réalité, l'environnement matériel, la consommation contemporaine, qui serait plus proche de ce qu'avait fait Tanizaki dans les années 50, qui s'appelait l'éloge de l'ombre, alors, qui est simplement une étude sur l'éclairage au Japon, dans les maisons, et la disparition des coins d'ombre. Et c'est un livre absolument bouleversant, parce que c'est un cri de désespoir, en fait. C'est la chose qui va lui manquer le plus, c'est justement ces coins d'ombre. C'est un droit qu'il faut revendiquer, de pousser un hurlement d'épouvante, si on vous prive d'une traversée partiellement insouciante du monde, la possibilité de rester dans le flou, d'écouter flou, de voir flou, mérite une défense acharnée.
Pour moi, la réalité, encore une fois, l'âge adulte, je dis l'âge adulte, ça fait un bon bout de temps que j'y suis, donc je devrais y être acclimatée, mais pour moi, c'est vraiment une sorte de monde étranger, en fait. Je sais pas, c'est assez étrange, comme le fait d'être en pension, vous voyez. Et on se dit que peut-être ça va s'arrêter un moment et on va retrouver son état initial, mais en fait, non. Enfin, en tout cas, on y est pour longtemps, donc... Et j'ai une faculté à me fondre dans ces séries télévisées qui sont sur le câble, donc qui ne sont quand même pas totalement ineptes. Et je dois dire que je m'y intègre à un point tel que ça devient vraiment partie intégrante de ma vie. Ce sont des gens quasiment aussi réels que les gens que je fréquente au quotidien. Enfin, il y a toutes sortes d'échappatoires comme ça, qui me semblent parfois assez pathétiques, surtout dans le cas, effectivement, des séries télévisées. Mais, c'est une vraie déchirure lorsque ça s'arrête. Je suis pas seule, hein. Mais c'est une fenêtre ouverte sur une autre vie. Et je dois dire que pendant une heure, j'échappe à ce petit appartement, à cette grisaille. Et un destin, en tout cas, finalement, assez étroit comme celui que nous avons tous. Enfin, on peut le juger plus ou moins... plus ou moins large, mais finalement, il est... En tout cas, c'est un sillon, ça devient un sillon au bout d'un moment.
Est-ce que c'est pas mieux de rester un petit peu dans le flou par rapport au regard qu'on a sur la personne que l'on aime, par exemple? Est-ce qu'il faut cette part de mystère, d'inexpliqué?
Ça, c'est difficile, parce qu'il y a autre chose. Non, malheureusement, je pense que... Je pense que ce que vous décrivez serait absolument merveilleux, mais malheureusement, là intervient autre chose de névrotique, à savoir non, le besoin de... Enfin, c'est certainement une espèce de quête affective qui fait que, justement, non, on est plutôt dans la demande, enfin, je suis en tout cas dans la demande, dans la nécessité de, enfin dans le besoin en tout cas, d'arriver à connaître l'autre pour mieux m'y attacher certainement et mieux me l'attacher sans doute, que ce soit d'ailleurs en amitié ou en amour. Et malheureusement, ce qui me rendrait sans doute beaucoup plus agréable à vivre, justement cette longueur d'avance qu'on peut laisser à l'autre, non, j'en suis totalement dépourvue. Mais malheureusement, justement, je pense que ce serait quelque chose de tout à fait admirable. Mais non, je suis plutôt du genre, là, pour le coup, tout d'un coup réveillée et collante. Donc, voilà.
J'ai tant rêvé de toi que tu perds la réalité. J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute. Robert Desnos, j'ai tant rêvé de toi.
Comme Francis Ponge, vous êtes celui qui regarde la main du conducteur quand les passagers s'extasient devant la beauté du paysage, Philippe Garnier.
Francis Ponge avait des bonnes raisons de le dire parce qu'il revendiquait un regard absolument singulier, y compris sur le paysage. Mais c'était quelqu'un qui fuyait le circuit central et qui avait envie de requalifier complètement un morceau de savon, un cajot et tout ça. Donc, quand le paysage, c'est souvent ce qui est déjà trop qualifié, ce qui porte une étiquette, ce sur quoi tout le monde s'extasie. Et c'est la fameuse carte postale préinstallée. Et pour Ponge, c'était pas bien du tout. Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir la même capacité à requalifier et à parler du vernis sur la table ou d'une antenne de télévision sur un toit, comme personne n'en a jamais parlé. Donc, quelquefois, je regarde le paysage aussi, comme tout le monde, parce que il faut avoir des pouvoirs, comme ça, pour s'échapper.
Quelle est la chose que vous regretteriez de voir floue ?
La chose que j'ai longuement désirée et qui m'apparaît tout d'un coup. En même temps, il y a une ironie terrible de ce flou quand il se déclare. C'est souvent ce qu'on a le plus désiré qui est absolument indiscernable. Je crois qu'il faut toujours... La myopie, elle vous est imposée aussi. Elle n'est pas uniquement une stratégie. Donc, parfois, vous n'arrivez pas à bien voir et à vous imprégner et à imprimer ce que vous avez désiré très longtemps. Et vous n'êtes pas là, surtout. Ça, c'est un rendez-vous impossible. Et il faut le prendre comme une ironie tragique. Mais en même temps, c'est à mourir de rire. Donc, il faut le prendre aussi comme ça. Ça, c'est une expérience érotique très ordinaire que d'avoir attendu et de ne pas y être du tout. Impossible mobilisation, impossible rendez-vous. Tout est là, tout est tel qu'on l'a évidemment rêvé, imaginé, dessiné en rêve. Et évidemment, on n'y est pas du tout. On est dans la perception faible et on est ailleurs et il n'y a absolument rien à faire pour ça. Donc, c'est une vengeance sadique d'un réel qui se rit complètement de nos désirs et c'est très bien aussi. Et il faut le vivre tel qu'il est. Il faut rire avec. Ça, c'est très important.
diriez que le temps passant, nous, Bayer-Gonson, on devient de plus en plus myope?
On se réconcilie avec son moi flottant, disons. L'inquiétude diminue. Parce qu'on descend plus au fond des choses, je pense, avec l'âge. Donc on est moins dans l'interrogation par rapport à son être dans le monde. Bon, c'est comme ça. Et on essaie de faire le maximum, enfin d'aller le plus loin. Mais c'est vrai que la vision des choses change avec l'âge, ça c'est certain. Elle s'approfondit.
Je crois qu'on a tous un double qui avance un tout petit peu en retrait de nous et qui porte justement ce flou. Toutes ces décisions qu'on n'a pas prises, toutes ces vies qu'on n'a pas vécues, tous ces regards qu'on n'a pas arrêtés et toutes ces histoires qu'on n'a pas racontées.
On sait qu'on n'a pas besoin de voir pour que ça existe. On sait que...
Et que toutes nos vies possibles sont là, de toute manière. Qu'elles continuent, quelque part. Une sorte de feuilleté du présent et du temps qui est assez proche justement du feuilleté de la vision floue. Quand les lignes se dédoublent et se superposent. Il y a deux ou trois objets là où il n'y en a qu'un. C'est pareil pour les gens, c'est pareil pour leur vie. Et pour la plupart des choses, ce qu'elles sont, ce qu'elles auraient pu être, ce qu'elles seront aussi, puisqu'on porte tout à l'instant là, en ce moment. On porte tout en nous, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a aimé, et puis tout ce qu'on vivra plus tard, peut-être ou pas. C'est énorme. Ça mérite un épais brouillard.
Fighting, baby. But you've been losing.
La quête du flou ou le bonheur d'être myope. Avec Christine Ferré-Fleury, J.B. Pontalis, Luba Jorgensen, la petite boutique de rue chez Actes Sud, Philippe Garnier, une petite cure de flou chez Puf, Olivier Passieux, Dominique Ménard, Leur histoire chez Joël Losfeld, Franck Maubert, Est-ce bien la nuit chez Stock.
I'm losing. I don't know who you think you're cheating, or with whom you have been sleeping.
Mixage Serge Ristich, une émission de Catherine Grive-Santini et Ghislaine David.
Says you're losing. When I let my hate pervert me, there's no more tears for crying. I'll just kill you if you hurt me. I'll kill you. You know I see you when you're sleeping. When you're all insane with dreaming, I can tell that you've been fighting, baby. Fighting hard and losing. Fighting hard. Revels now are ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep.
C'était Surpris par la nuit, la quête du flou ou le bonheur d'être myope, une émission diffusée le 11 février 2003.